je réalise que qu'est-ce qu'on fait ici peut changer des pays. J'exagère pas. Ces principes-là, il y a 9 ans, 10 ans, on les a partagés et on a partagé notre amour avec un jeune pasteur aux Indes. Il s'appelait Yvan. Et dans ce temps-là, il y avait à peu près 10 leaders et 50 personnes dans son église. Et on a commencé à verser les principes de leadership aussi. Moi, je crois dans verser tout ce qui était en nous. Pierre a dit à cette personne qui était handicapée, « Or et argent, je n'ai pas, mais qu'est-ce que j'ai? Je te le donne dans le nom de Jésus, lève-toi. » Qu'est-ce qu'il avait? Il avait le don de foi, il avait le don de guérison, il avait plusieurs dons, mais ce jour-là, il a réalisé qu'il y avait quelque chose dans lui. Élisée a regardé Élie un jour avant qu'Élie soit porté. Une prophétie disait qu'Élie allait être emporté au ciel. Alors, à la fin, vous savez l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Élie a dit, je veux une double portion de ton esprit. On peut seulement donner qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qui est dans nous? Et en tout cas, Jésus, on a senti, ça fait longtemps qu'on verse, on donne tout qu'est-ce qu'on a pour essayer de changer le monde, non seulement Las Vegas, mais le monde. Et on a eu la chance de vraiment adopter Yvan. Et je peux dire que maintenant, il y a 2500 dans son église. Ça, c'est dans l'Inde Nord. C'est très dangereux. En plus de ça, il y a 1600. Il a décidé d'établir des écoles dans les bidonvilles parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de soins médicaux, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de linge. 5 jours par semaine, on a mis des écoles dans les bidonvilles. Du linge, nourriture, la parole de Dieu et des soins médicaux pour 1600, on a adopté déjà. 1600 enfants. Il y a un film qui est sorti il y a un couple d'années qui s'appelle Slumdog Millionaire. C'est l'histoire d'un jeune garçon des bidonvilles des Indes. Vous savez, il y avait des centaines de milliers de personnes qui vivent jour à jour. Souvent, ils ont été handicapés par exprès. Simplement pour être des meilleurs mendiants. Beaucoup des jeunes filles ont été vendues comme esclaves sexuelles à l'âge de 5 ou 6 ans. C'est ça qui arrive dans les bidonvilles aux Indes. En tout cas, ça fait à peu près 9-10 ans qu'on est là. Et maintenant, il a adopté 1600. On a des écoles dans les bidonvilles. On est nourri tous les jours. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et tout parce qu'on a décidé, on s'est appelé à venir à côté de quelqu'un, comme un ami, comme un Barnabas, le fils d'encouragement. Et je suis venu ici, ça c'est, vous avez rencontré Joël, est-ce que vous l'aimez Joël? Ça c'est un jeune qui, il y a 4 ans, 5 ans, il m'a vu dans une conférence du Saint-Esprit à Ottawa, il m'a appelé, il dit, je veux que tu me couvres, que tu deviennes ma couverture. Je dis, non, je ne peux pas le faire. Parce que je ne suis pas organisé pour prendre des gens en dessous de nous. Simplement, si je peux devenir ton ami, on va devenir amis. Et si ça t'aide, ça va être bien. Alors, depuis ce temps-là, on travaille ensemble au Québec. Et vraiment, il y a une réveil qui commence au Québec. Il y a un couple de mois, on était devant. Il y a un ministère avec les jeunes aussi maintenant. C'est un pasteur d'une église. Mais dans ce temps-là, il y avait 400 ados qui sont venus ensemble pour 2 jours pour jeûner et prier pour le réveil au Québec. C'est quand la dernière fois vous avez vu 400 ados jeûner et prier pour 2 jours pour leur province ou leur état ou leur pays? Alors, ça te montre quelque chose. Lui, il a vraiment foncé et ce jeune homme-là, on l'a adopté. et quand c'était l'an passé, il y a un couple de mois, au mois d'octobre, on faisait une formation à Dijon et celui qui le faisait avec moi ne pouvait pas le faire. Alors, ils m'ont dit, Paul, est-ce que tu peux trouver quelqu'un? J'ai dit oui, quelqu'un d'autre que j'ai adopté il y a une couple d'années. Puis maintenant, c'est un de mes fils spirituels. Et est-ce que je peux l'amener? Alors, je l'ai amené à Dijon l'an passé et les gens l'ont tellement aimé. Alors, c'est un homme pas mal formidable. Hein? Et sa femme aussi. Parce que nous autres, on vient comme bénévoles, vous savez. Il n'y a personne qui me paye pour faire ça. Je viens parce que je vous aime. Et je donne mon temps parce que je crois dans la France. Et je crois qu'il y a des leaders ici qui vont changer la francophonie. Récemment, j'étais à Guadeloupe et j'ai prêché une conférence. Et ils ont besoin. Il y a un frère, Michel, qui m'a dit, c'est Michel, hein? Charles, ton deuxième nom, c'est? Ah, c'est ça. Charles, Louis, Elisabeth, il va aller au Martinique pour amener des formations de leadership. Ils ont besoin de ça au Martinique. Ils ont besoin de toute la gang, toute l'équipe là. Alors, je donne la gloire à Jésus que vous avez multiplié. Qu'est-ce que vous apprenez ici? C'est ça le but principal. Prenez, recevez, assimilez dans votre vie, l'appliquez à votre vie et le donnez aux autres. David, est-ce que tu as la vidéo? Mon frère? Champion? Tu as la vidéo? Ça ne fonctionne pas? Aïe, 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 oui, dis oui. Non, oui, non. Non, non, oui, 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 oui. Tu me donnes le grand oui et je vais arrêter de parler. J'ai deux petites vidéos juste pour montrer qu'est-ce qui arrive à Las Vegas et aussi... Oh! Good. Il n'y a pas de son. Ça, jusqu'à temps que j'ai un peu de son, c'est une formation à Las Vegas. Deux semaines, il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que je peux aller est-ce que je peux aller au réveil à Las Vegas? Parce qu'on a une réveil depuis 1996. Notre église a grandi de 200 à près 6000 tous les dimanches, 5 à 6000. Il y a une réveil. Le Seigneur, on a des disciples à près 1200 personnes qui étudient la parole toutes les semaines. Alors, ce n'est pas juste des gens qui s'assoient dans les chaises, c'est des disciples. Et il y a déjà beaucoup de gens qui veulent venir à Las Vegas. Et ils veulent venir à des temps où je ne suis pas là. Alors, j'ai simplement j'ai fait sûr qu'au mois de juillet, du 12 au 31, je suis là 100%. Et ma femme et moi et d'autres leaders francophones, on va se verser dans les francophones. On a eu 40 l'an passé et cette année, on s'attend à 100. OK, on y va? Il y a un peu de son? Et c'est Michel Bervers. Si vous êtes intéressé, contactez Caroline. J'aimerais t'introduire. Est-ce que tu peux te lever? Ça, c'est une jeune femme de Dieu de Cégem. Elle a gradué et elle a passé 3 mois avec nous autres à Las Vegas. Elle essaie de revenir à Las Vegas. C'est une des meilleures. Elle est intelligente, elle est douée, elle a de l'onction dans sa vie. Mais elle est aussi pour vous dire, premièrement, il y a des ressources de ça pour vous aider. Deuxièmement, si vous voulez venir à Las Vegas pendant la formation, vous dites, est-ce que c'est pour les ados? Au mois de juillet, on avait peut-être 50% c'était des pasteurs et des leaders, et l'autre 50% c'était des leaders jeunes adultes, ados. Alors, il y avait des gens de 65 ans, il y avait des gens des jeunes ados aussi. Alors, actuellement, je pense que le plus jeune avait 16 ans, le plus vieux, je pense qu'il avait 63 ans. Alors, c'est drôle, mais il y avait beaucoup de leaders qui sont venus, beaucoup de pasteurs et leurs femmes qui sont venus. Alors, si on peut vous aider avec ça, parle à Caroline, parce que ça va être Michel et son équipe vont toutes nous aider à le faire en groupe. Donc, vous venez pour 2 semaines ou vous pouvez rester jusqu'au 31, parce qu'il y a une groupe qui vont aller à Hollywood après ça. Ils vont aller à Los Angeles, ils vont aller sur la plage, ils vont s'amuser pour 3 ou 4 jours après qu'on a fini. Ou si on a notre conférence Saint-Esprit durant ce temps-là, et Bill Johnson va être là, Stacy Campbell, des gens formidables. On vous invite. On s'attend à peu près 40 à 50 pasteurs. Et il y aura encore 40 à 50 jeunes adultes et d'autres qui vont être là aussi. Alors, on s'attend à 100 francophones du Québec, de la Suisse et de la France. Y a-t-il une autre? L'autre, ça explique un peu avec des images qu'est-ce que le Seigneur fait à travers de cet réveil qui a commencé à Las Vegas et maintenant c'est partout à travers le monde et on donne Jésus toute la gloire. Et quand ça commence, je vais juste me taire, OK? OK, prenez la parole de Dieu. On va visiter Genèse chapitre 45. Et demain, non seulement on va vraiment vous aider, et je m'excuse, la première session, je n'ai pas vraiment bien expliqué que toutes les réponses sont en arrière de chaque leçon. Donc, par hasard, si j'y vais trop vite ou si... Je commence à vous conter des histoires. Vous pouvez savoir, n'ayez pas peur. Toutes les réponses sont après chaque chapitre. Quand je suis arrivé à Las Vegas, je sentais que j'étais appelé à faire quelque chose d'important, mais je ne savais pas comment. Alors, qu'est-ce que j'ai finalement dit? J'ai dit, je veux être fidèle à l'appel, mais je veux aussi être fidèle à l'appel de Dieu dans ma vie. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai jeûné et j'ai prié un jour par semaine, le jeudi soir à vendredi soir, pour 12 ans. Souvent, les gens se disent, mais comment ça se fait, ça? Un Québécois qui va à Las Vegas, qui n'a pas été formé comme pasteur, prend une petite église et maintenant, il y a tellement de gens qui sont touchés. Pourquoi? Mais premièrement, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. Donc, je suis allé aux sources et j'ai jeûné, j'ai prié. Et là, le Seigneur commence à me parler ici, juste là, à ma tête. J'ai commencé à avoir des idées et même des rêves. Et notre chapitre maintenant, c'est le « J'ai un rêve ». En Genèse, chapitre 45, verset 5, c'est Joseph qui parle à ses frères. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'a envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » C'est incroyable que Joseph, il a été blessé. Il a été battu et vendu par ses propres frères. Et la chose qu'il a faite, c'est qu'il a partagé le fait qu'il avait eu 2 rêves. Avez-vous des rêves? Avez-vous des rêves pour votre église, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos petits-enfants? Est-ce que vous êtes des personnes de rêve? Est-ce que le Seigneur vous a parlé clairement? Est-ce que le Seigneur vous a donné des visions pour votre église et votre ministère? J'espère que la réponse est oui. Parce que c'est la seule chose qui va vous aider à percer toute la résistance qui est maintenant en France. Ce sera des rêves qui ne peuvent pas être éteints. C'est un feu qui ne peut pas être enlevé. C'est un rêve que vous devez chercher, chasser, courir après Dieu, jeûner, prier pour que le Seigneur te parle. Et c'est cette vision-là qui va repousser les gens et attirer les gens. Vous voulez des leaders? Il faut que vous soyez un leader avec des visions. Claire. Une des choses que j'ai faites quand je suis arrivé à Las Vegas, j'avais une vision d'aider les gens blessés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je ne sais pas comment être un pasteur, donc je vais simplement aider les gens à devenir en santé. Parce qu'un arbre en santé produit des fruits. Un chrétien blessé, il fait quoi? Il blesse les autres. Un mariage blessé, ça finit finalement avec des blessures. Une église avec des leaders sont blessés, ils n'ont pas été guéris, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de fruits. Vous savez, dans le monde maintenant, il y a quelque chose qu'on voit très clairement en l'Amérique du Nord, Canada et les États-Unis, c'est qu'un de tous les 3 filles est abusé sexuellement par l'âge de 16 ans. Un de tous les 3. 33%. Un de tous les 4 garçons est abusé sexuellement par l'âge de 16 ans. Et en plus de ça, il y a l'abus physique, il y a l'abus émotionnel, il y a le rejet, il y a toutes sortes d'expériences que les gens ont maintenant. Il y a des jeunes aux États-Unis, un de tous les 2 enfants est élevé dans une famille sans un père ou sans la mère. Alors donc, ils ne vivent pas avec une unité complète. Alors, vous regardez qu'est-ce que les gens vivent maintenant, des problèmes d'alcool, de drogue, toutes sortes de problèmes, des abus incroyables. C'est ça que j'ai vu quand j'étais le directeur d'un centre de relations d'aide. J'avais 17 personnes qui travaillaient pour moi. C'était très, très grand. Et quand j'ai accepté la responsabilité d'être pasteur, j'ai eu le même rêve d'aider les gens blessés. Peut-être que c'était très simple, mais j'ai dit, si je peux aider les gens à être, premièrement, si je peux les former, et non seulement former avec l'information, mais les former émotionnellement. Il faut qu'on devienne des gens en santé, émotionnellement, spirituellement et en point de vue relation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement, dans tous mes sermons et dans les écoles de dimanche, je donnais les chances pour les gens d'être guéris, d'avoir des temps de guérison, des temps dans la présence de Dieu, des temps pour être, pour gérer le pardon, pour gérer la dépression, pour comment avoir des percées émotionnelles et spirituelles. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, si j'ai des gens blessés, JP, ça, c'est tous des gens blessés. Ils arrivent à l'église, et quand moi, j'ai accepté Jésus, j'étais un homme blessé. Oui, une famille avec beaucoup de succès. Oui, j'ai eu beaucoup de succès, mais profondément dans moi, je pensais comment me commettre le suicide. J'avais tombé dans une dépression à cause des drôles, l'alcool et tout et le fait que j'avais pas Jésus. J'ai tombé dans une dépression. Je considérais de prendre ma propre vie et quelqu'un m'a partagé les bonnes nouvelles. Après que j'ai reçu Jésus, oui, j'ai été touché, mais j'ai pas encore été transformé. Et quand j'ai été aux chrétiens, ils disaient, Paul, laisse faire. C'est tout en dessous du sang de Jésus. Mais si ça, c'est vrai, oui, j'ai été pardonné, mais je n'avais pas été transformé. Il n'y a personne qui savait comment m'aider à gérer la dépression, à gérer ma relation avec mon père, à avoir des temps de guérison. Personne ne parlait de ça quand j'ai été sauvé en 78. Mais j'ai rencontré des gens, comme Dr. Dobbins et d'autres, le directeur avec qui j'ai fait ma maîtrise en psychologie. J'ai eu la chance d'être avec des chrétiens qui étaient en santé. Des gens qui prenaient du temps à montrer les principes du pardon. Mais ma femme et moi, on a été pour le conseil de relations de mariage. On a passé du temps avec un conseiller pour nous aider à grandir. Parce qu'on venait tout de notre monde blessé. On avait toutes nos expériences. Ma femme avec sa famille, moi avec ma famille. On rentre dans le mariage avec notre bagage, nos petites crottes dans notre cœur, les choses qu'on a apprises qui n'étaient pas bien. Je peux-tu dire crotte ici? Les saletés. En tout cas, on a toutes sortes de choses qu'on amène dans nos mariages, qu'on amène dans l'église. Et comme leader, qu'est-ce qui arrive quand notre cœur n'est pas propre? David a dit, « Crée dans moi le cœur net, Seigneur. » Et l'esprit, quoi? Bien disposé. Pourquoi un esprit bien disposé? Parce que ton esprit est affecté par tes émotions. Le fait que tu aies le cœur net ou le fait que tu aies le cœur plein de blessures et d'amertume et de culpabilité, ça vous arrête d'être des leaders que le Seigneur vous a appelés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On a créé vraiment des ressources pour aider les gens, premièrement, à voir les stratégies, deuxièmement, à voir des rêves, mais troisièmement, être guéri, émotionnellement, spirituellement et relation. Alors, j'ai fait quelque chose on n'a pas beaucoup de copies qui nous restent. On essaie d'avoir d'autres ressources par demain, mais je ne sais pas. On vient juste de vendre le dernier livre sur la famille. Il y a un frère qui m'a entendu parler, c'était le seul en France maintenant. Lève-toi, c'est toi qui l'as eu. Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est lui qui l'a pris la dernière. En tout cas, il y a une couple de 30 jours, un parcours de 30 jours vers la vie spirituellement en santé. J'ai pris 30 jours pour aider les gens sur les vidéos, c'est moi le coach. 5 à 10 minutes tous les jours. Je vois, OK, jour numéro 1, on travaille sur ça. Alors, actuellement, c'est comme la thérapie ou l'aide de relations spirituelles pour une couple d'euros. Au lieu de, quand j'étais un conseiller, on chargeait 75 à 125 $ de l'heure quand j'étais un conseiller pour les relations d'aide. Maintenant, c'est beaucoup moins juste pour 30 jours. Alors, pour 30 jours, tous les jours, journée numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tous les jours, je vais être le coach. Je vais vous aider à devenir une personne en santé. Et après ça, vous le montrez à votre église. Moi, je commencerai avec mon leadership. Je montrerai la vidéo. Je suis sûr qu'on peut commander des livres. Tout le monde, tous mes leaders auraient un livre. Je montrerai la vidéo. C'est moi qui gère comme pasteur. OK, on va devenir des gens en santé. Parce qu'on veut avoir des fruits. Vous avez besoin de rêves. Vous avez besoin de techniques et de principes. Mais vous avez besoin d'être en santé. Il n'en reste pas beaucoup, mais si on peut vous aider comme des ressources, et sinon, vous le dites après que c'est tout vendu, vous le dites à Caroline, et j'espère par demain, on aura d'autres. On continue. Genèse, chapitre 45. Joseph a eu l'habilité de prendre les blessures de sa vie et de le réinterpréter. Personne ne peut changer le fait qu'une femme qui rentre dans ton église a été abusée sexuellement. Personne ne peut changer les faits. Oui, c'est vrai. Mais dans chaque cœur, il y a deux parties. Il y a le parti conscient et le parti inconscient. Pour les gens qui aiment les ordinateurs, ça, c'est le logiciel et ça, c'est votre disque dur. Tous les jours, vous voyez des choses, vous entendez des choses, vous avez de l'expérience. Et vous le recevez la plupart du temps à travers de votre conscient, la plupart du temps. Et ça va être filtré à travers de votre disque dur, vos mémoires, les mémoires qui sont négatives et les mémoires qui sont positives. L'éducation, les connaissances de ta société, ton éducation, toutes les choses que vous avez vécues est dans votre disque dur maintenant. Et la parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous voyons à travers d'un quoi? D'un miroir. C'est ça votre miroir. Les blessures, les insécurités. Pour moi, j'avais conclu que mon père ne m'aimait pas en grandissant. Le fait qu'il travaillait 80 heures par semaine, le fait qu'il est allé d'un vendeur jusqu'à un chef d'entreprise, il travaillait très fort, mais il n'était jamais là pour moi. Puis c'est un homme, à cause de la guerre, il était un homme très critique, un homme très dur. Et moi, j'étais très rebelle. J'avais le cœur tout plein de blessures, tout plein de désappointements. Et à la fin, finalement, j'ai fini par haïr mon père. Mais je vous dis, et j'ai fini par conclure que mon père ne m'aimait pas. Mais ce n'était pas vrai. Je n'ai jamais oublié le jour que le Seigneur m'a dit, parce qu'il a commencé à me guérir. Parce que les rêves peuvent être arrêtés par votre filtre. Même les rêves de Dieu peuvent être filtrés et peuvent être rejetés à travers de cette miroir-là. Alors, c'est pour ça que je prends juste une couple de minutes pour vous préparer à même recevoir des rêves de Dieu ou à même de réinterpréter les rêves de Dieu. Alors, je me rappelle, j'étais dans un temps de prière un jour et tout à coup, dans ma tête, j'entends Paul, ton père t'aimait. J'ai dit, non, déjà, j'ai accepté le fait qu'il ne m'aimait pas, Seigneur. C'est bien, je l'ai pardonné, je suis marié, j'ai 3 enfants, je vais vivre ma vie. Le fait qu'il ne m'aimait pas ne va plus m'affecter. Bien, ça m'affectait sans le savoir, parce que c'est quelque chose de très, non seulement conscient, c'était inconscient. Et c'est un filtre. Alors, il me dit, non, ton père t'aimait. J'ai dit, ben comment? Et tout à coup, j'ai eu un flashback. Vous avez déjà eu des flashbacks? Vous vous rappelez de quelque chose. J'ai eu le flashback de quand je jouais au hockey. J'étais un joueur de hockey sur glace. Et j'ai joué en Europe, mais je jouais aussi en junior au Canada. Et je me rappelle ce soir-là. On jouait contre une équipe qui était très, très féroce et violente. Mais leurs supporters étaient plus violents qu'eux autres. Alors, on était sur la glace et c'était dans les éliminatoires, les playoffs. Ils lançaient des petits morceaux de fer pour nous frapper et nous faire mal. Alors, on patinait tout à coup, bam, tu te faisais frapper par un des supporters. Après ça, ils nous lançaient des verres de café chaud. C'est vrai. Le pire, c'est une fois, pas le pire, mais une des choses qui était drôle, ils ont lancé un poulet mort sur la glace. C'était des supporters fous. Vous avez des supporters fous au football ici. J'ai vu des portraits, j'ai vu des films. En tout cas, c'était fou. L'équipe était violente, mais le supporter était pire. Alors, j'étais assis sur le banc et tout à coup, quelqu'un m'a pris par arrière. Ils m'ont pris comme ça. Bam! Je me suis tourné pour me défendre. Je pensais que c'était un des supporters. Alors, je me tourne pour les frapper et c'était mon père. C'était un des seuls matchs d'hockey qui avait jamais été. Mais c'était, comme on dit en anglais, big time parce que tout le monde parlait de junior, puis on était une équipe qui avait, on avait des records de victoires et tout le monde parlait de nous autres dans les journaux de Montréal. Et mon père est venu. C'était mon père. Et tout à coup, il me dit, Paul, aie pas peur, mon fils. J'ai été à ma voiture et je suis allé chercher le fer pour changer les pneus. C'est quoi le terme en français? OK. Je vous crois. Je suis allé chercher. Manivelle. Je suis allé chercher une manivelle. Je vais te sortir d'ici, mon fils. Aie pas peur. Quand tu as un héros de la guerre qui dit ça, tu peux être sûr qu'il va te sortir de là. Et ce jour-là, quand le Seigneur m'a donné ce flashback-là, il dit, ton père, à cause de la guerre et les choses qui étaient arrivées dans sa vie, il n'y avait pas les outils pour te montrer l'amour comme tu le voyais. Mais ce jour-là, il l'a montré dans la seule façon qu'il pouvait. Vous savez, mon père Après que j'ai reçu Jésus, c'est moi qui l'appelais et je le disais. « Papa, comment ça va? Ça va bien? Tiens ta mère, mon fils. » Je dis « Non, papa, je veux dire quelque chose. » « Quoi? » « Je t'aime. » « Tiens ta mère. » Je le répétais à chaque fois parce que moi, mon cœur avait changé vers mon père. Moi, je l'aimais à cause du Christ. Alors, à chaque fois que j'appelais, « Bonjour, papa, comment ça va? Ça va bien, Samuel? Paul, tiens, parle à ta mère. »« Non, ma papa, attends. » »« Quoi? » »« Je t'aime, papa. » »« Tiens ta mère. » Je ne vais jamais oublier le jour qu'il a finalement dit qu'il m'aimait. C'était dans une carte pour mon anniversaire. Puis ma mère a écrit quelque chose, puis mon père a dit, « Je t'aime, papa. » Je peux que pleurer maintenant juste en parlant de ça. Vous savez, on vit avec l'interprétation de notre vie. Mon père m'aimait, il n'y avait pas les outils pour vraiment le démontrer ou le donner. C'est pour ça que le Seigneur veut, premièrement, que notre cœur soit guéri, qu'on puisse avoir des visions qui viennent de lui sans les misinterpréter. Est-ce qu'on peut dire « Amen » OK, maintenant on fonce. On est sur la page 17 et demain, il y aura un PowerPoint qui va être envoyé de Las Vegas. C'est quoi des rêves? C'est une image mentale, claire. Une image mentale, claire d'un avenir meilleur. Un avenir meilleur. Donné par Dieu qui amène une personne à avoir la conviction. Qui amène une personne à avoir la conviction que non seulement cela peut être fait, mais qu'il faut que ce soit fait. Des rêves se donnent l'espoir. Est-ce que votre Église a l'espoir de changer le monde? Est-ce que vous avez l'espoir de vivre vos rêves? Quand les gens viennent dans notre Église, notre but, c'est de les transformer de personnes blessées à personnes qui sont des rêveurs, des personnes qui vivent leurs rêves, qui ont l'espoir. Et les rêves, ça doit être communiqué. On doit communiquer ces rêves-là. On doit leur donner un portrait, même peindre une image qui est tellement claire dans leur esprit et leur cerveau, qu'ils peuvent dire « Oui, je veux me donner complètement à cette rêve-là, à cette vision-là. » Et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait sur page 17. Notez les composantes d'une vision divine. Et j'aimerais juste les souligner, illustrer pour un moment. Premièrement, une image nette. Est-ce que c'est clair? Un changement positif. Votre vision, est-ce que ça va aider les gens? Est-ce que c'est positif? Troisièmement, une focalisation sur le futur. Jérémie 29, le Seigneur a des plans pour toi, des plans pour te bénir. Joseph avait des plans, Moïse avait des plans. Quatrièmement, un don de Dieu. Est-ce que le Seigneur va vraiment rentrer dans cette vision-là? Parce que je dis souvent, il n'y a pas de problème de finance, il y a de problème de leadership, il y a un problème de vision, un manque de vision. S'il y a vraiment des visions de Dieu, ça va attirer des gens et ça va disperser des gens. Pourquoi? À notre église, on a vraiment eu cette vision-là d'être une église en santé. Donc, on a mis notre priorité sur avoir des couples en santé et vraiment former les mariages et les célibataires, vraiment les aider à devenir des gens complets. Et on travaille avec tout le monde pour vraiment être en santé, mais on a eu de la résidence. En plus de ça, on travaillait sur le fait qu'on voulait devenir une église multiculturelle. Mais ce n'est pas comme ça qu'on grandit une église aux États-Unis. Aux États-Unis, ils disent, non, les Blancs, allez pour les Blancs. Paul Goulet, tu devrais aller pour les gens de 18 à 35 qui ont de l'argent. Va pas pour les Noirs, va pas pour les Mexicains. Toi, tu es un Blanc. Si tu veux avoir un méga church un jour, tu vas aller comme ça. Il y avait une vision, une philosophie d'église qui est très, très limitée. Mais parce que j'étais un Québécois qui a subi des préjugés à cause du fait que j'étais francophone jusqu'à l'âge de 13 ans, c'était le français. C'est une longue histoire, je ne vais pas vous compter, mais jusqu'à 13 ans, j'étais un Québécois, je me considérais plutôt Québécois que Canadien. Et alors, on a subi des préjugés du fait qu'on était des Français dans un pays anglais. Et même quand Charles de Gaulle, vous vous rappelez d'un homme qui s'appelle Charles de Gaulle? Il venu à Montréal, je me rappelle, j'étais jeune, il dit « Vive le Québec libre ». se causer des une sorte de traumatisme dans notre esprit. Et on a dit, oui, on veut jeter tous les Anglais. Et maintenant, même au Québec, si vous allez au Québec, il y a des licences sur les voitures, les plaques de... C'est ça? Et c'est écrit, je me souviens. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Je me souviens qu'est-ce que tu m'as fait, les Anglais. Et ça ne va jamais arriver encore. Ils ont pris cette parole-là, vive le Québec libre, puis ça fait longtemps, ça fait 20 ans, ou 30 ans qu'ils veulent se séparer. Ils ont eu des référendums après référendum, et ils n'ont jamais eu une majorité, mais il y a eu comme 49%, 48% des gens voulaient se séparer du reste du Canada. Et même, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des lois pour sortir les Anglais. Alors, toutes les pancartes, quand j'étais jeune, c'était toutes bilingues. Français, anglais, partout. Maintenant, c'est tout français. C'est contre la loi d'avoir un pub en anglais. C'est incroyable, hein? Pourquoi? Ça sort de notre cœur. Je me souviens de qu'est-ce que tu m'as fait et ça ne va jamais arriver encore. Vous savez, il y a des gens qui rentrent dans votre église et c'est ça qu'ils disent. J'ai été abusé par mon père puis personne ne va me dire quoi faire. J'ai été abusé par ma mère et femme de Dieu, je t'haïs parce que ma mère m'a abusé. Il y a des gens qui mettent leurs émotions sur vous simplement parce qu'ils ont reçu des blessures pendant leurs enfances. Vous comprenez qu'est-ce que je dis? Tout le monde a des filtres. Tout le monde. Alors, vous venez avec des visions de Dieu, ça va reculer les gens et ça va attirer les gens. Quand j'ai dit, oui, on va être une église multiculturelle, j'ai des gens qui étaient fâchés contre moi. Des gens qui étaient fâchés. Ils sont partis de l'église. Mais j'ai dit, si vous ne voulez pas avoir une église multiculturelle, j'aimerais te serrer les mains aujourd'hui. J'aimerais t'aider à trouver une autre église dans la ville, mais pas ici. Parce qu'ici, multiculturel. L'autre chose, c'est, moi, je crois beaucoup dans le ministère des femmes. Alors, ma femme, c'est une prédicatrice incroyable. Il y a des gens qui sont venus, « Hey! Hey! Moi, j'aime pas le fait qu'il y a des femmes qui sont des prédicateurs. » J'ai dit, « Mais moi, j'aime ça. » Ça fait 20 ans que ma femme pratique sur moi. Donc maintenant, elle fait seulement faire ce qu'elle a fait avec moi pendant toutes ces années. C'est une femme de Dieu. Ben, c'est qui sa couverture, pardon? C'est qui sa couverture? C'est moi. Je suis ici, je la couvre. Mais il y a des préjugés contre les noirs, contre les bruns, contre les femmes, contre les plus vieux, contre les plus jeunes. C'est vivre dans une église avec des préjugés, ça tue parce que c'est pas la vision de Dieu, c'est la vision de quelqu'un d'autre. Mais je ne fais pas de commentaires. Si votre dénomination ne veut pas laisser les femmes prêcher, ça ne me dérange pas. C'est à vous de vivre ça, si vous voulez. Et s'il y a des préjugés, c'est pas de mes affaires. Je vous parle de mes histoires. Une peuple et une époque choisie, comme Esther. On chantait une chanson à notre église. I want to be a history maker in this land. Puis on était une petite église de rien. Puis on disait, I want to be a history maker in this land. Puis toute mon église, je dis, c'est pas moi qui veux faire le ministère, c'est vous. Puis mon église m'a cru. Alors maintenant, le ministère, c'est pas fait par Pogoulet. Tous les mercredis soir et jeudi, et le dimanche, on a des groupes. J'ai du talent. On a des groupes, des petits groupes avec un leader, un assistant, puis il y a 6, 7, 8 personnes autour. On a beaucoup, beaucoup de tables, des cercles de leadership. On fait pas nos petits groupes dans les maisons. On fait nos petits groupes alentour des tables dans notre église. Et dans le dimanche matin, on a près 1200 qui sont dans les groupes maintenant. Adultes. Pas mal fort, hein? Des gens qui sont dans la parole de Dieu. Et les meilleurs pasteurs à l'église, c'est ces gens-là. C'est eux qui vont à l'hôpital, c'est eux qui visitent les pauvres, c'est eux qui font la part du travail. Pourquoi? C'est les leaders. C'est pas moi qui le fais. L'église n'aurait pas pu grandir à des milliers de personnes parce que si tu es un pasteur qui ne forme pas des leaders, l'église peut grandir à peu près jusqu'à 100. 50 à 100, c'est le niveau 100 de vrai leadership dans ton église. Et même, je vais te montrer un principe que Maxwell m'a appris il y a longtemps et j'ai appris dans ma propre vie. C'est tu me montres le nombre de leaders que vous avez. 10, ton église peut grandir à 100. 50, ton église peut grandir à 500. Wow, c'est fragile. Montre-moi le nombre de leaders qui sont en santé dans ton église et je te dirai combien ton église peut grandir. La même chose dans les ministères. Tu montres le nombre de leaders, je vais te montrer l'impact. Tu dis, est-ce que c'est une loi? Non, c'est un principe que j'ai appris pendant longtemps et je l'ai vécu. OK, page 18. La naissance d'une vision. Puis je veux laisser assez de temps pour... je ne veux pas te garder longtemps non plus ce soir. Parce qu'on revient demain. Et ça va être fort demain. La naissance d'une vision. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Paul, comment est-ce que je peux avoir une vision qui est vraiment légitime, une vision qui peut vraiment toucher le restant de la France ou ma communauté? C'est comme ça. Et je crois vraiment dans les cinq principes que Jean nous donne. Premièrement, l'intimité. L'intimité. Est-ce que vous êtes vraiment intime avec Jésus? C'est seulement lui qui peut donner des rêves qui vaut la peine de vivre. Est-ce que vous êtes intime tous les jours avec lui? Est-ce que vous passez des heures en prière? Il y a eu une étude récemment qui a dit que la plupart des pasteurs passent seulement 5 minutes en prière tous les jours. Pasteur, ça, c'est pas la congrégation. On est des leaders et on prie seulement 5 minutes par jour. Et on parle au CEO de nos églises, on parle au chef de celui que Jésus a dit, « Je vais bâtir mon église et les portes de quoi? » Va pas. C'est ça. Jésus a dit, c'est lui qui va le faire, mais on ne lui parle pas et on ne l'écoute pas. On prie 5 minutes par jour. Alors j'ai décidé, le plus loin que j'allais comme pasteur, le plus qu'il fallait que je prie. Comme j'ai dit, je prenais un jour par semaine, jeûner et prier. J'allais dans le désert pendant l'hiver. J'allais sur une montagne pendant l'été. Entends Dieu. Téléphone off. Ordinateur off. Entends Dieu on. Ça fait 18 ans qu'on est là. Il faut qu'on ait cette relation intime. C'est pour ça, pour nous, le louange est tellement important. Il faut être intime avec lui. Deuxièmement, la conception. Il y a un jour que vous allez entendre cette voix. Parce que la parole dit que mes brebis entendent quoi? Il entend ma voix. Alors, on est les brebis de Dieu. Donc, j'ai le droit et je peux même dire, Seigneur, parle-moi. Parle à mon conscient, ma conscience. Parle-moi au subconscient. Parle-moi, mets des idées dans ma tête que je peux discerner. Parle-moi cette voix si douce que je peux l'entendre et le discerner et je peux commencer à vivre cette vision de rêve que tu as pour moi. Et même, ça vient des fois par des rêves. Les gens rêvent le soir. Des fois, c'est avec moi, ça vient avec des fois, je vois des numéros. Des fois, je vois seulement un mot ou une phrase. Des fois, j'entends comme des idées qui viennent et c'est là où je discerne si c'est Dieu ou non. Je me rappelle, j'étais en Argentine avec Claudio Frazen. Et il a fait un appel et j'ai été à l'estrade. Claudio, c'était un ami très cher à ma vie. Et je suis allé à l'estrade juste pour prier. J'ai dit, Seigneur, Samuel, ça c'est le nom de mon fils. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi l'impact de ma vie? Je veux voir plus loin que cette semaine. Ça sera quoi l'impact de ma vie? Clairement, 2000. J'avais déjà 800 personnes dans mon église. Alors, je suis allé m'asseoir, puis j'étais déprimé. Vous dites, t'es-tu fou? Non, parce que j'avais 35 ans, ou 38 ans, j'avais déjà 800 personnes, puis ils me disaient, je vais seulement avoir 2000. Ça, c'est le seul impact que je vais avoir. Alors, je suis allé m'asseoir, je dis, Seigneur, est-ce que j'ai quelque chose de caché? J'ai-tu des limites que je ne vois pas? Pourquoi tu dis seulement 2000? Puis clairement, il me dit, Paul, je n'ai pas dit 2000 personnes. J'ai dit 2000 églises. Je suis allé de déprimé à quoi? J'ai flippé. Non! Non! Là, je disais, au lieu... Je disais, non, Seigneur, c'est trop. Je ne peux pas le faire. Là, je voyais toutes mes limites au lieu de voir qu'est-ce que je viens juste d'entendre. Alors, je ne l'ai pas dit à personne pour un an. Un an, je ne l'ai même pas dit à ma femme. Mais à chaque fois que jeûnais, j'entendais 2000. Alors un jour, je dis à ma femme, j'ai dit, je pense que j'ai peut-être entendu Dieu l'an passé. Je ne sais pas, mais continue à l'entendre. Je l'ai dit à ma femme, elle dit, oh oui, je pense que c'est Dieu. Après ça, j'ai mis nos anciens. J'ai dit, oui, j'ai mis les diacres ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui. Tout le monde a dit oui. Et après ça, ils disent, gloire à Dieu, pasteur. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on va établir 2000 églises? J'ai dit, je ne sais pas. Mais c'était la conception. Comme Marie a dit, je suis... Qu'est-ce que Marie a dit à l'ange? C'est ça. Je suis disponible. Conception. Troisièmement, la gestion. Pour moi, c'était un an. Même la pensée me faisait peur. Donc, pour un an, je priais. C'est la gestation. C'est le temps de vraiment compter le coût de cette vision-là. Compter le coût de bâtir cette maison-là au ministère. Ça va me coûter quoi? Éric, il est très, très bon. On parle souvent de vision. Et il me dit souvent, OK, Paul, pour le faire, il faut figurer combien de personnes qu'on aura besoin et combien d'argent. Et lui, incroyable, il a ce don pour vraiment mettre des roues à des rêves. J'ai besoin des gens comme ça dans ma vie parce que moi, je suis un rêveur. Et j'ai besoin de gens de dire, pas non, ça ne peut pas arriver, mais OK, si c'est Dieu, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Il a vraiment coûté, en anglais, on appelle ça « due diligence ». On fait nos études, on fait nos recherches pour voir, OK, combien de personnes, comment je vais le faire. C'est vraiment la gestation. Quatrièmement, le travail. Le travail, c'est souvent le plus douloureux. Quand ma femme a donné naissance à nos trois enfants, c'était douloureux. Isabelle, la première, a pris 24 heures de douleur. 24 heures! Puis, j'étais supposé de lui donner des massages parce que toutes les douleurs étaient juste là. Alors, pour 24 heures, j'étais en construction dans ce temps-là. Je payais pour mes propres études à l'université. Et toutes mes mains étaient dures parce que j'étais en construction. Il fallait que je lui donne un massage avec de l'huile et des choses comme ça. Et à la fin, toutes mes cicatrices sont descendues et j'avais des mains comme des petits bébés. Parce que 24 heures de massage. C'est douloureux pour moi et pour elle. Mais c'est le travail de vraiment mettre des roues ou bien dire, OK, j'ai prié, je pense pas que c'est le Seigneur. J'ai compté les prix de ça, j'ai vérifié. Pour moi, peut-être que ce n'est pas Dieu. Et cinquièmement, l'accouchement. L'accouchement, la vision est née. Ce qui se passait à l'intérieur du leader voit finalement le jour. Tout le monde peut à présent voir les fruits de la prière. Je me rappelle... J'étais dans le désert et j'ai dit, OK, Seigneur, on n'a pas de propriété, on n'a pas de bâtiment, on n'a rien, on loue à 10 000 $ par mois. C'est pas faisable, ça. Seigneur, dis-moi quoi faire. Il m'a montré qu'il fallait acheter du terrain, il fallait bâtir. Et je vais toujours me rappeler, on a décidé d'aller pour un petit terrain de, je ne sais pas comment dire dans les termes hectares, mais c'était des acres, 5 acres, très petit. On a bâti une petite église de, ben, dans ce temps-là, peut-être 600 personnes, 600 chaises. Et pour moi, c'était petit. Et parce que moi, j'ai des visions stupides. J'ai des visions. Il me semble que de chaque fois qu'il me donne des visions, c'est grand. Mais j'allais juste faire ça. Et on est allé au conseil de la ville. Ils lui ont dit, non, vous avez beaucoup trop de succès pour avoir un petit terrain comme ça. Il faut que vous achetiez un terrain sur l'autoroute. Il faut que ça soit grand parce qu'il faut que vous bâtissiez quelque chose d'énorme. Oui! Au début, j'étais fâché. Ça me tentait de dire, ben, montre-moi-le ce terrain-là. Mais tout à coup, j'ai entendu l'Esprit de Dieu, Paul, si je peux parler à travers un âne, je peux parler à travers des gens politiques. Une couple de semaines plus tard, je reçois un appel. C'est un homme qui dit, « Hey, j'étais un des voisins qui ne voulait pas que tu sois proche de chez moi. Mais est-ce que tu veux que je t'aide à trouver des terrains? » Je ne l'ai même pas cru. J'ai eu un de mes diacres qui lui a dit, « Oui, va chercher quelque chose. » Plus tard, il appelle. J'ai trouvé 15 acres sur l'autoroute. Est-ce que tu veux le voir? Je n'ai même pas cru. J'ai envoyé mes diacres pour le vérifier. Il revient, il me dit, pasteur, c'est dans une des meilleures places dans la ville, c'est sur l'autoroute, c'est grand, c'est 15 acres. Des acres, c'est combien? Non, c'est pas des hectares, c'est des acres. C'est un terme canadien et américain. On n'a pas le système métrique aux États-Unis. En tout cas, c'est grand. C'est très grand. 15 000 mètres carrés? 15 000 mètres carrés, c'est grand ça? Le terrain est grand. On est allé le voir. Finalement, on l'a acheté. On l'a acheté pour 560 000 $. On ne l'avait pas le 500, mais on l'a eu. Après ça, on a bâti un bâtiment qui, on avait quoi? 600. On a bâti un bâtiment de 600. Après ça, le Seigneur me dit un jour, Paul, bâti un bâtiment, un sanctuaire où tu peux asseoir 3000 personnes. 3000. Ça n'a jamais été fait dans notre État. Jamais dans notre ville, jamais dans notre État. Alors, le Seigneur nous donnait des visions de quelque chose qui allait percer. C'est comme ça que le Seigneur va vous donner des visions qui va percer la France. Il va vous donner des visions et des rêves. Il cherche des Gédéons. Il cherche des Joachins. Il cherche des hommes qui n'ont pas peur et des femmes qui n'ont pas peur de voir en dehors de vos propres limites. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais quand vous finalement vous accouchez, finalement, on a bâti le bâtiment où il y a 3000 chaises. Et le jour après, j'ai su que ma fille a eu le cancer. Le jour après qu'on a, on a fait le dédicace du bâtiment. Je peux dire, il y a des batailles émotionnelles dans le ministère, mais aussi il y a des batailles spirituelles. Vous comprenez? Et mon père a eu le cancer la même année. Alors, le jour après, ma fille a eu le cancer. Moi plus tard, mon père a eu le cancer, mon père est mort et ma fille a été guérie complètement dans un culte comme ça. Complètement guérie. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Jésus? Page 19. Vous voyez la comparaison entre vision humaine et divine. Vous pouvez lire, vous êtes intelligent. Mais les étapes pour réaliser la vision divine. Matthieu 9, 35 et Matthieu 10, verset 8. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre la parole et simplement le lire pour nous? Matthieu 9, on a des prêcheurs, des prédicateurs ici. Matthieu 9, verset 35. Quelqu'un peut le lire, s'il te plaît? Wow! Et Matthieu 18 aussi, mon frère, si tu peux le lire. Matthieu 10, verset 8.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Quelle vision! Même dans le prière qui nous a appris, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Jésus a toujours voulu nous donner cette vision-là d'amener le royaume de Dieu sur la terre. Je ne parle pas de la théologie des temps des fins des temps, tout ça. Je parle du fait que le Seigneur nous a dit tous les jours, prier que le royaume de Dieu et les vérités et la puissance et l'onction et révélation soient ici, à travers des leaders ici pour la France. Imagine établir le royaume de Dieu ici en France. Imagine prier pour les malades, ils vont être guéris. Imagine développer des ministères qui vont changer le monde, comme le ministère de Top Chrétien. Imagine avoir d'autres ministères qui vont vraiment soulever. Et c'est pour ça qu'on est venu ici, pour développer des leaders. Impliquez-vous. Comment le faire? Impliquez-vous complètement dans le service et initiez l'obéissance. Alors le mot là, page 19, numéro 1, service. On peut attendre pour que nos rêves soient accomplis, mais après on prend un pas dans l'eau, ça va se séparer. Il faut commencer quelque part. Il ne faut jamais haïr les débuts qui sont très, très humbles. Commencez. Commencez avec qu'est-ce que vous avez. Le petit pain et des morceaux de poisson. Commencez où vous êtes. Deuxièmement, communiquez la révélation que vous avez déjà eue. Vous savez, je reçois beaucoup d'appels. Beaucoup de courriels qui me demandent pour l'argent. Ils pensent qu'on est riche à Las Vegas. Mais avec 18% de chômage, les temps sont durs. J'ai décrit que l'an passé, c'était une des années les plus dures pour moi parce qu'on a un grand ministère et je pense qu'on a dépensé 1,2 million l'an passé pour les autres. Mission. On a donné. Tiens, prends-les. On donne l'argent partout pour aider les gens. Parce que c'est notre cœur, c'est notre ADN. Alors l'an passé, quand l'argent rentrait pas autant, j'ai décrit, l'année passée, c'était comme si c'était un jongleur de couteaux. Il me semblait que n'importe quelle décision que je faisais, ça me coûtait quelque chose et je n'avais pas l'habilité de vraiment faire des changements pour nous sauver de l'argent et vraiment gérer un temps d'avoir un budget balancé. C'était dur l'an passé. Parce que je suis très bon à avancer, mais je ne suis pas très bon. Je peux vous dire toutes mes faiblesses. Je suis très bon à avancer, je ne suis pas très bon à reculer. Alors, l'an passé, il fallait que j'apprenne comment reculer. Il fallait que j'apprenne comment stabiliser les choses qui n'étaient pas stables. Il fallait que je sache où dépenser de l'argent dans une façon plus intelligente et à discerner plus quoi faire et comment le faire. J'ai même écrit à mes amis ici en équipe, j'ai dit, OK, l'église, parce qu'au début, je venais ici, si l'église payait tout, et l'hôtel, l'avion, nourriture, tout. Et après ça, on a commencé l'équipe. Et après un an ou deux ans, j'ai parlé à l'équipe, j'ai dit, « Hey, mon église n'est pas capable de tout payer pour tout maintenant. Alors, si vous voulez demander à quelqu'un d'autre de venir, s'il te plaît, l'église ne peut pas donner ce qu'ils n'ont pas. Alors, on peut faire des sacrifices, mais ça nous coûte à chaque fois que je dis, ça me coûtait des milliers de dollars. Et parce que j'amenais une équipe avec moi, je n'ai pas le droit de voyager. Seul. Alors, nos diacres ne veulent pas que je voyage tout seul parce qu'ils m'aiment beaucoup puis ils ne veulent pas que. Tu sais, ils veulent me protéger émotionnellement, physiquement, moralement. Alors, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Je vous regarde, j'ai toujours une équipe avec moi. Angelo, c'est un de nos étudiants. J'ai Joël qui vient du Québec. J'ai Yannick qui vient de la Suisse. J'ai toujours des gens qui me racontent parce que je ne veux jamais être tout seul et mon équipe ne veut pas. Alors, ça coûte l'argent, ça. Au début, j'amenais des gens de Las Vegas. Et finalement, j'ai dit si tu veux quelqu'un d'autre, vas-y. Ils ont dit, bien, peut-être on peut t'envoyer prêcher ici, puis là, peut-être tu peux avoir des offrandes. Et à la fin, on a résolu le fait qu'ils ont dit, non, on veut que tu viennes, on va essayer de t'aider dans une façon ou une autre. Gloire à Dieu. Même si je ne suis pas payé pour ça, au moins il fallait que je paye mes dépenses. Alors, j'ai prêché à Genève, j'ai prêché à Lausanne, j'ai prêché. Maintenant, je suis très occupé. Mais au moins je paye. Mes voyages ici ne coûtent rien à l'Église parce que je veux pas que. Ils ne peuvent pas le faire, c'est des temps durs à mon Église. Alors, ils ne peuvent pas le faire, alors j'ai besoin de trouver quelque part d'autre. Vous comprenez? Alors, il y a toujours un prix pour des visions, mais le Seigneur nous donne des révélations pour résoudre des problèmes. Apocalypse chapitre 4. J'aime tellement cette histoire-là. Apocalypse chapitre 4, verset 1. C'est vraiment le temps, mes amis. Mes amis francophones, le Seigneur va vous donner des visions, des révélations pour cet réveil pour la francophonie. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel pour moi. Dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Soulignez le fait qu'il n'était pas dans l'esprit quand il eut cette vision-là. Peut-être il marchait, peut-être il était au marché, peut-être il était dans sa chambre, mais après qu'il eut la révélation, il est rentré dans l'esprit. J'aimerais vous dire, le temps de révélation, c'est maintenant. Je lisais l'histoire du réveil en France dans le 16e siècle. Prophétie. Je lisais votre histoire de réveil, votre histoire prophétique. Le fait que les États-Unis, c'est tellement fort, c'est parce qu'on a eu des centaines et des milliers d'Huguenots sont allés en Suisse, sont allés autre part pour des places d'abri, mais beaucoup sont arrivés aux États-Unis. Vous savez qu'ils peuvent tracer, j'ai lu ça récemment, 8 présidents avaient des sources Huguenots. 8? 8? Aux États-Unis. Alors, c'était la France. Même un Paul Goulet, notre famille vient de Normandie. Il y a deux montagnes dans le sud de Normandie, Petit Goulet et Grand Goulet. C'est vrai? Je peux vous dire quelque chose qui est dans mon cœur parce que je ne vais pas aller longtemps ce soir. c'est le temps de révélation. Éric et moi, on était avec Denise et Bruel en Israël. Ils étaient nos hôtes. On n'avait jamais été en Israël. J'avais eu beaucoup d'invitations, mais je ne voulais jamais y aller jusqu'à temps que ce soit bien. On était allés ensemble. Et une soirée, on était dans une piscine après une longue journée de tourisme et d'information. Et on a commencé à rêver ensemble de commencer des églises sur Internet. On a parlé peut-être 2 heures. On était tout frissonnés. On avait toutes sortes de plis parce qu'on était dans l'eau tellement longtemps. Mais je te dis, quelque chose a été né ce jour-là. Des révélations entre frères et frères. Vous savez, des fois, des révélations vont venir. Pendant que je parle, vous entendez quelque chose de Dieu. Même maintenant, ce soir, moi, quand je suis dans un sermon ou je suis dans une église, j'ai toujours un morceau de papier avec moi, ou un livre ou bien mon ordinateur, et je prends toujours des notes. Des fois, c'est des notes de l'orateur, des fois, c'est des notes de papa. Tous les jours, je fais ça. OK. Troisièmement, observez et comprenez la réalité de la condition humaine. À la vue de la foule, observez que la foule est blessée ici en France. C'est pas dur de faire parler des Français. Je vous ai conté l'histoire de l'autre sur l'avion. C'est facile de gagner des amis ici en France. Il faut simplement être le sel et la lumière. Il faut simplement montrer qu'on est heureux, qu'on aime les gens, on est comme ils disent, sympathique. Comme chrétien, on ne doit pas avoir cette attitude, « Oh, je suis tellement rejeté, je suis rien en France. » Non, on devrait dire, « Oui, je suis chrétien et je vous aime. Je vous aime, on a une famille qui est en santé. Ma femme m'aime, moi j'aime ma femme, j'aime mes enfants. » C'est pas les gens qui me rendent heureux. J'ai cette relation-là. Où j'ai cet amour dans mon cœur, c'est facile d'aimer les autres, même les gens qui ne sont pas faciles à être aimés. Et j'ai trouvé en France, c'est très simple. Le jour avant hier, j'étais à Dijon. J'allais parce que j'aime ça marcher tous les jours. Je fais des exercices parce que j'aime ça manger, donc je dois faire des exercices. Sinon, je vais être un prêcheur, comme un prédicateur comme ça, avec gloire à Dieu, alléluia. Alors, je marchais ce jour-là et j'ai vu surplus pour des marchandises d'armée. Et moi, j'aime ça parce que je cherche le couteau de mon père. Mon père, c'était dans une division qui s'appelle ça la division des brigades de démons. Non, c'est vrai. Mon père, les nazis appelaient mon père, c'est une brigade spéciale de Canadiens et Américains qui ont mis ensemble. C'était la première force spéciale. Première. Alors, les nazis l'appelaient la brigade de démons. Il y a eu des livres qui ont été écrits. Il y avait un couteau spécial qui était long comme ça. Et je cherche le couteau. Alors, je vais dans la place d'Antiquité. J'ai parlé à ce monsieur-là. J'ai dit, je cherche un couteau. C'est très spécifique. Puis, je lui demandais des questions. J'ai conté mon histoire de mon père un peu. Puis après ça, j'ai dit, et ta relation avec ton père, comment ça a été? Il a commencé à compter des histoires. Son père, il avait 13 ans, quand le SS lui a recruté pour être dans l'armée SS à 13 ans. Le SS venait dans le village de mon père à Alsace. Et il prenait le fusil, montrait à la fin, les enfants de 12, 13 ans, tiens, tu vas être un SS, oui ou non? Non? Oui? OK, signe maintenant. Et à 13 ans, son père était SS. Le gars commence à verser son cœur avec moi. Il dit, personne dans le monde maintenant, regarde qu'est-ce qui arrive à travers le monde. Il a tellement l'amertume contre les gens. C'est pour ça, pourquoi qu'il vend des fusils, des choses comme ça. Mais il commence à verser toute cette crotte dans son cœur. Et il dit, il n'y a personne qui veut écouter. Il n'y a personne qui aime les autres gens. Il dit, mais excepté pour ça. Parce que ça faisait au moins 30-40 minutes que je l'écoutais. Il dit, excepté pour ça. Puis j'ai eu la chance, je disais, ben je suis un chrétien. Je suis ici pour faire des formations de leaders. Et oui, il y a des gens qui aiment les autres gens. Il me regardait comme ça. Il n'avait pas le couteau. Il appelle un de ses amis. Il commence à faire des appels pour moi pour essayer de trouver le couteau de mon père, de la prière de mon père. Puis à la fin, on a serré la main, on était des amis, il s'appelle Eric aussi. On a serré les mains et la prochaine fois que je vois Dijon, je vais aller visiter mon ami. Il dit, moi, je ne suis pas un chrétien. Il n'est pas chrétien du tout. Il n'est pas catholique. Il n'est pas catho, il n'est rien. Mais moi, j'ai la chance maintenant de gagner pour Jésus. Mais je veux gagner. Je veux pas qu'il m'aime. Je veux qu'il aime Jésus. Alors, moi, je vais être plein d'amour. Je vais l'écouter. Je vais l'aimer. C'est une chance incroyable ici en France. Parce que les gens, les Français, aiment parler. J'ai raison, non? Quatre. Permettez à Dieu de vous donner le fardeau. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas populaire. On n'aime pas les fardeaux. Mais le Seigneur veut vous donner des fardeaux. Ça, c'est sur page 20. Numéro 4, donner le fardeau d'un besoin spécifique. Cinquièmement, chercher le diagnostic divin, quel est le problème à résoudre. C'est, OK Seigneur, il y a des problèmes dans ma communauté, comment je peux résoudre ces problèmes-là? Que ce soit le fait qu'il y a des prostituées, que ce soit le fait que les gens ils ont beaucoup d'amertume ou il y a des problèmes dans le mariage, c'est quoi la solution? Si j'étais un pasteur ici, tous les trois mois, je ferais des conférences pour améliorer les relations. J'inviterais un chrétien PhD ou quelque chose. Il y en a ici en France. Il y en a au Québec aussi. J'inviterais quelqu'un pour faire des temps pour les couples, pour les relations. Et je n'appellerais pas ça chrétien, mais ce serait une chance de, tiens, j'envoie le net et je veux amener les gens à Jésus. Pourquoi? Il y a des besoins dans les relations. Les mariages s'écroulent. L'autre chose que j'ai fait, je ferai des séminaires ou des conférences sur comment avoir une famille avec beaucoup de paix. Des termes non religieux. Pourquoi? J'ai un homme récemment, un docteur juif. Il me connaît. Il connaît mon fils Samuel. Il vient me voir. Je fais juste des exercices, un club d'exercices. Il vient me voir et dit, « Hey Paul, je voudrais te demander comment ça se fait t'as élevé un fils comme Samuel? » Il dit, ton fils est formidable. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai des problèmes avec mes fils. C'est un docteur juif, très riche et très bien reconnu à Las Vegas. Et j'ai eu la chance de partager. À la fin, il m'a dit, merci beaucoup, merci beaucoup. Puis j'ai donné mon numéro de téléphone. J'ai dit, tu peux m'appeler n'importe quand. Est-ce que j'ai partagé la bonne nouvelle? Non, j'ai partagé comment être un papa. Puis maintenant, il me respecte. Pourquoi? Parce qu'il a vu mon fils. Aux États-Unis, beaucoup de pasteurs et leur mariage terminent. Les enfants, ils haïssent l'Église, ils haïssent les chrétiens. Et j'ai entendu que des histoires horribles parce que ça doit être notre enfance. Il y a des problèmes à résoudre. Sixièmement, prier pour déterminer quelle action pourrait résoudre ce problème. Prier, demander au Seigneur de donner des idées divines. Et là, ces idées-là, vous allez les discerner, vous allez parler à votre équipe. Septièmement, choisissez une équipe et équipez-la. On ne peut rien faire tout seul. Choisissez, recrutez. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, « Hey, c'est quoi les principes que tu as partagés? » Et ce n'est pas dans les livres, donc vous n'allez pas le trouver. Trouvez des gens. Recrutez-les. Formez-les. C'est quoi l'autre? Motivez-les, oui. Quoi d'autre? Donnez un exemple, ça c'est toi. Il faut démontrer quoi faire. Et donnez l'autorité. Et finalement, envoyez-les. Il faut leur donner une chance de faillir. Et après ça, tu les suivis, tu fais le suivi avec eux. Et finalement, tu les relâches dans leur ministère, l'appel dans leur vie. Huitièmement, décider d'une action immédiate en vue de l'accomplissement de la vision. Donc, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Faites de l'action. C'est facile de dire j'ai des visions, mais si vous ne faites rien maintenant, est-ce que ça va s'accomplir? OK. Quelle est la voix qui inspire votre vision? La voix intérieure? Wow! La voix de colère? La voix de la réussite? Ou la voix d'en haut? Je vais vous montrer une autre chose, puis après ça, on va prier et on va appliquer ça. Vous savez, pour être un vrai leader en France, vous auriez besoin de faire quelque chose. La motivation doit venir de votre cœur, des visions de papa, des visions du ciel. Si vous êtes contrôlé par des gens ici, la parole dit que la peur des gens, c'est un quoi? Un piège. Vous regardez, il y a beaucoup de pasteurs que je connais, peut-être pas ici ce soir, mais quand je fais les conférences de pasteurs et leaders, je vois la plupart des pasteurs, ils mesurent leur succès par la réponse des autres gens. Ils essaient de plaire à tout le monde. Ils sont possédés par la peur des hommes. Ils sont limités par cette peur-là. Et j'aimerais vous encourager d'être libérés de cette peur-là. D'être des gens qui reçoivent des rêves de Jésus. D'être des gens qui puissent vraiment gérer ces visions-là. Et que ces visions-là t'aident à toucher la France. Peut-être que quelqu'un ici est appelé à être le prochain Billy Graham. On parle beaucoup des Américains qui l'ont fait. On parle beaucoup de Reinhard Bonnke qui l'a fait. Mais c'est qui les Français? Quels Français vont se lever et vraiment avoir des visions de papa et commencer à les gérer et les voir vivre, donner naissance? C'est qui? C'est qui les Français? Maintenant, on a plus que 100 à Dijon. On a plus que 100 ici. 130, en fait, ils ont réservé leur place ici. Au Québec, on avait plus que 125 ou 130 qui étaient au Québec. Donc, il y a au moins 300 quelque chose francophones qui se disent, c'est moi. Je veux me mettre en position pour devenir un meilleur leader. Paul, est-ce que tu continues à te développer? Absolument. Ça fait 18 ans que je suis à Las Vegas, mais je suis toujours en train de lire, toujours en train d'aller à des formations parce que je veux être formé. Je ne veux pas être ici. Je ne veux pas être la couverture sur notre ministère. Je veux être celui qui dit, on déclenche encore. On grandit encore. On veut faire plus de résultats à travers le monde. On va toucher plus de personnes. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, il souligne les 5 outils de Winston Churchill. Vous connaissez tout Winston Churchill. Il parle de cette entrée en matière percutante. C'est tellement un mot spécial, ça. Il fallait que je demande à Philippe, c'est quoi ça, percutante? C'est quelque chose qui t'allume. C'est quelque chose qui commence fort et atteint la cible. Vous avez quelque chose comme ça, une vision comme ça? Hein? Oh, c'est ça, un coup percute. Je ne savais pas. Wow. Votre vision, est-ce que c'est percutante? Prenez un moment et dites dans une phrase, quelle est cette vision? Simplement. Je peux vous dire maintenant, on a une vision internationale, c'est 2020, et notre vision locale, c'est 5 propriétés alentour de notre ville, plein de l'esprit, plein de disciples, plein de prières pour transformer une communauté, comme le mur de Néhémie. Je viens juste de décrire la vision de notre église locale. L'église, vision internationale, c'est 2020. Par l'année 2020, on veut établir 2000 églises qui vont transformer des communautés, guérir les malades, des actes de compassion, et ça va influencer les gouvernements et les 7 montagnes d'influence dans le monde. C'est simple. Dans 2 phrases, et là, je donne des exemples. C'est quoi votre vision? Qui va être percutante, qui va toucher les gens, attraper leur cœur. Et c'est ces gens-là qui vont donner leur vie pour vous suivre et suivre cette vision. Écrivez-le maintenant. Prenez simplement, je vais vous donner 30 secondes pour l'écrire. Allez-y. Deuxièmement, votre vision. J'aimerais vous demander si vous avez une vision pour votre mariage, si vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, naturellement, est-ce que vous avez une vision pour votre famille, que vous êtes marié, que vous ne soyez pas marié? C'est quoi votre vision pour votre famille? Vous avez une vision pour votre ministère. Vous avez une vision pour votre entreprise, une vision pour votre église. Quelle est votre vision qui vient de Dieu? On veut répondre à cette question-là. Alors, si vous pouvez écrire la question, quelle est votre vision pour votre mariage, famille, entreprise, ministère, église? Outil numéro 2, un thème unique. C'est unique. C'est pas 50 choses. C'est quelque chose de très clair. 20-20, 5-5-5. Bang, c'est tout. Boum, c'est clair. Troisièmement, un langage simple. Tu as déjà demandé à quelqu'un, « Hey, est-ce que tu peux partager ta vision? » Et tu es là pour 30 minutes. Ben quand j'étais petit, là, puis il compte des histoires, puis à la fin, tu dis, « Ben qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi ta vision? » Il faut que ça soit clair. Si tu avais seulement 30 secondes pour le dire, est-ce que tu es capable de le dire? C'est langage simple. Quatrièmement, des images. Des images. Je montre toujours, c'est pour ça que je voulais montrer les images des gens que j'envoie maintenant, on en voit à travers le monde maintenant. Je vais vous envoyer des images de Las Vegas pour la formation de 2 semaines. Je vais vous montrer des images parce que ça donne l'inspiration. Et cinquièmement, finalement, une conclusion émotionnelle. Est-ce que c'est clair, votre vision? Est-ce que ça touche le cœur? Parce que si ça ne touche pas le cœur, est-ce que les gens voudront vraiment s'impliquer? Compte des histoires vraies. Mais tu comptes des histoires, des gens qui ont été guéris, qui ont été touchés. Tu peux parler de, « Hey, j'aimerais vous inviter de vous faire rentrer dans notre chorale de l'église du Philadelphie. Je vous encourage de venir jeudi soir pour les pratiques. Parce que j'aimerais que vous voyiez la dernière fois qu'on a fait le chorale au casino de Paris. J'aimerais vous montrer des portraits, écouter les sons. Est-ce que vous voulez faire partie d'un chorale qui touche des milliers d'âmes? Oui, et j'aimerais vous conter l'histoire de quelqu'un qui a été touché ce soir-là. C'est l'histoire d'Éric qui est allé là. Éric a donné sa vie à Jésus. Et Éric a été touché. Il s'est réconcilié avec sa femme. Il a été guéri, il a été touché. Éric, voilà, Éric est juste là. Hey, est-ce qu'on peut applaudir Éric? Tu finis avec quelque chose qui peut les toucher parce que c'est ça. On veut toucher le cœur des gens. Les visions doivent nous toucher. On doit compter des histoires. Je peux en compter des histoires, vous le voyez. C'est pour ça qu'on a besoin de quelque chose qui touche le cœur. Finalement, conclusion. Comment manier la vision? Voyez-la clairement. Est-ce qu'on peut dire clairement? Il faut être clair, clair, clair. Deuxièmement, montrez-la avec créativité. On a tellement de ressources maintenant. On a l'Internet, on a Facebook, on a Twitter, on a toutes sortes d'outils pour montrer des visions avec la créativité. Ça, c'est une jeune fille et elle pratique son français depuis 3 ans. Elle a 21 ans. Elle a pu faire quelque chose comme ça. Je voulais le montrer, même avec des petites erreurs, parce que j'honore quelqu'un qui essaye. Qui fait des pas, créativité. Et troisièmement, dites-la constamment. Constamment. Pendant que j'étais parti, j'ai pas mon téléphone, je l'ai ici, je pense. Je fais des vidéos. Vous regardez mes vidéos? Avant de partir? J'ai des vidéos, j'ai un tas de vidéos. Même avec Philippe qui faisait des blagues, il plaisantait. J'ai un tas de vidéos. Et qu'est-ce que je fais? C'est, tiens, ça c'est Joël. Ça fait plus que 2 semaines que je suis parti. J'ai envoyé ça. On a à peu près une couple de mille de personnes sur notre courriel. On a envoyé ça à des milliers de personnes aujourd'hui. Il y a d'autres. Veux-tu voir d'autres? Regarde, Philippe. J'aime tellement Philippe. Il est tellement humble. Je dis, fais-le en anglais. Il dit, non, je veux pas. S'il te plaît, fais-le en anglais. Tout le monde va rire parce que tout le monde rit de moi quand même. Alors, c'est bien que quand il rit de quelqu'un d'autre. Quel leader! Il met sa fierté à côté, il l'a fait, je l'envoie à l'église, ils vont tous sourire, ils vont tous rire parce qu'ils voient, on change des vies. Même Robert, son pasteur, a dit, depuis qu'il a commencé l'équipe, combien il a été transformé. La première fois que j'ai rencontré, il était tellement sérieux. Maintenant, il fait des blagues, il fait des faces, il aime ça s'amuser avec son ami Paul. On communique quoi? Constamment. Pendant mes deux semaines que je déperte, mais même quand je suis chez moi, j'envoie deux courriels pour des milliers de personnes tous les semaines. Deux. Hey, c'est pasteur ici. J'aimerais partager le témoignage de Suzy. Elle a reçu Jésus parce que il y a deux semaines, on a baptisé 46 personnes. Alors, on a baptisé 46 personnes, gloire à Dieu. Et Suzy, c'était un de ceux qui étaient baptisés. C'était un accro de crack. Et maintenant, elle a accepté Jésus. Gloire à Dieu. Et oublie pas de prier pour moi. Maintenant, aujourd'hui, on a à peu près 1000 personnes qui prient pour la conférence ici. J'envoie des vidéos. C'est pour ça. Il prie pour moi. J'envoie des vidéos drôles. J'envoie des vidéos qui moi aussi, j'ai fait des choses drôles. Alors, peut-être demain, je peux te montrer mes niaiseries. Je plaisante souvent. En tout cas, constamment, créativité, humour. Sinon, mes amis, mes pasteurs, si on est toujours sérieux, on va à l'église, oh, tout le monde est contre nous ici en France, on ne peut pas avoir de bâtiment, personne ne nous aime, il y a 2% de chrétiens ici en France, 98% contre nous, tout va mal, ayez pitié de moi, donnez de l'argent à Jésus si vous êtes capable, mais je me demande pardon pour même avoir demandé de donner vos dîmes, pardon pour ça, je me sens mal parce que j'ai mentionné le mot argent, pardonne-moi aussi. Aïe, 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 pardon. Ça devrait être, hey, j'ai des bonnes nouvelles. Jésus t'aime, il y a un plan pour ta vie. Jésus m'a touché cette semaine, j'étais un peu découragé. J'étais dans un temps de prière, il m'a dit qu'il m'aimait. Oh oui, gloire à Dieu qu'il m'aime. Et hey, Gilles, merci pour toute l'aide que tu as donnée à l'église cette semaine. Je sais que tu as nourri les gens qui avaient soif. Merci Gilles. Hey, est-ce qu'on peut célébrer le gift de louange? Moi, je suis toujours en train de répéter et d'honorer et célébrer les gens qui font quelque chose pour Jésus. Quand ils viennent le dimanche, je suis heureux, je suis plein de cet esprit. Pourquoi? Parce que c'est des bonnes nouvelles, pas des nouvelles méchantes. On dit ça, des bonnes nouvelles. Gloire à Dieu. Constamment, je le répète. OK, on va parler pour le prochain 8 minutes ensemble. J'aimerais que vous vous tourniez vers un ami. Quelle est votre vision? Vous êtes marié? Pour votre mariage, premièrement, quelle est votre vision pour votre église, votre famille? Quelle est cette chose? Vous devriez avoir des visions, alors partage-les avec quelqu'un qui est à côté de toi. Alors, on va se mettre en groupe de 2 ou 3. Si vous voulez mettre en groupe de 4, c'est possible ici. Mettez-vous en groupe et simplement pour le prochain, après 8 ou 9 minutes, partagez ma vision. C'est ça! Pas 2 heures, ça devrait être 30 secondes chaque. J'ai une vision pour ma femme, notre mariage, j'aimerais être plus proche de ma femme. On va vraiment travailler ensemble dans le ministère et je voudrais que tous mes enfants suivent Jésus et servent dans le ministère. Ça, c'est ma vision pour ma famille. Allez, OK, vous y allez? Groupe de 2, 3, 4. On va parler de nos visions et après ça, on va terminer avec une couple de minutes de prière avant qu'on vous laisse aller pour ce soir.